Bonjour à tous, bienvenue dans 7 jours dans le monde pour revenir sur BFM Business, sur toute l'actu internationale de la semaine et qui nous emmènera cette semaine en Allemagne avec cette déconvenue de poids pour Angela Merkel. La Syrie, Daesh chassé de la frontière turque, l'Arabie Saoudite, l'Iran avec cette guerre des mots autour du pèlerinage de la Mecque et puis la Corée du Nord qui procède à un nouvel essai nucléaire. Bienvenue dans 7 jours dans le monde.
BFM Business, l'info internationale à la une. 7 jours dans le monde, présenté par Fabrice Lundy.
Et avec cette semaine, Jean-Dominique Merchet. Jean-Dominique Merchet, spécialiste des questions de défense dans le quotidien L'Opinion et qui anime le blog Secret Défense. Bonjour Jean-Dominique. Bonjour. Avec nous également Jean-Luc Sauron, professeur de droit européen à Paris Dauphine. Bonjour Jean-Luc.
Bonjour Fabrice.
Oui, direction donc l'Allemagne, je vous le disais, donc... Dans le nord de l'Allemagne, on est au bord de la mer Baltique, dans ce petit land qui est le Mecklembourg-Poméranie occidentale. C'est l'ex-RDA, c'est le fief d'Angela Merkel qui reçoit une gifle aux élections régionales de dimanche dernier. Son parti, la CDU, battu pour la première fois par le parti alternatif für Deutschland. Son leader local, Leif Erik Holm.
De 0 à 20%, c'est un résultat dont on peut être fier. On n'aurait jamais osé en rêver, il y a encore peu de temps. Peut-être qu'aujourd'hui est le début de la fin de l'ère Angela Merkel.
Oui, alors ça, on va le voir évidemment. 21% pour l'AFD, la CDU 19%, recul de 4 points par rapport au scrutin il y a 5 ans. Ce sont les sociodémocrates du SPD qui arrivent premier avec 30%. Jean-Luc Sauron, l'AFD, c'est un jeune parti, il a 3 ans. Tiens, j'hésite toujours. Comment le caractériser, ce parti populiste, anti-européen ? Comment vous l'appelez, vous ?
Ah ben, c'est un parti populiste anti-européen. Je vous remercie d'avoir donné l'essentiel.
Nationaliste aussi ?
Nationaliste, c'est très difficile en Allemagne d'accoler ce substantif à un parti. C'est une connotation très particulière. C'est un parti qui est né de la crise financière autour des années 2008-2009, avec une volonté de sortir de l'euro. Puisque le sentiment qui a un peu animé l'AFD au départ, c'est que les Allemands allaient payer pour tout le monde et qu'il y avait un risque que les économies allemandes, faites par les travailleurs allemands, soient aspirées par tous les pays européens en difficulté. Et cette thématique, finalement, au fur et à mesure où les plans sont succédés et où la population a vu que la crise était jugulée au Portugal et en Grèce, ça a fait perdre un peu d'assise à l'AFD, qui a trouvé dans la crise migratoire une nouvelle surface. Et là, en revanche, elle est extrêmement populaire sur ce point-là.
Discours anti-euro, anti-migrants, anti-immigrés, ils ont un programme économique sérieux ou pas ?
Alors, ils n'ont pas un programme très sérieux, ils ne sont pas les seuls populistes, d'ailleurs, qui n'ont pas de programme économique sérieux en Europe. Non, véritablement, là-dessus, ils ont une volonté extrêmement forte de fermer les frontières. Aussi, c'est aussi une tonalité de sortir un terme de l'Union européenne. Ce sont des eurosceptiques forts. Vous venez tout à l'heure dire que la CDU avait pris une claque, ce sera mon dernier mot là-dessus. La CDU a été créée quasiment avec l'affirmation qu'il n'y aurait jamais un parti plus à droite que la CDU. C'est-à-dire que CDU-CSU, c'est une espèce de conglomérat conservateur, mais démocrate chrétien, c'est l'économie sociale de marché. Et là, c'est la première fois depuis 1945 que la CDU est passée derrière ce type de parti.
Reste à savoir, on le verra tout à l'heure, hein, si la CDU est toujours à droite et si l'AFD ne prend pas la place des conservateurs, finalement, avec une CDU peut-être qui se recentre un peu. Ce qu'on voit de Jean-Dominique Merchet, c'est l'émergence, la progression de l'AFD depuis 3 ans, spécialement dans les Länder de l'Est, la Saxe, la Saxe-Anhalt, le Brandebourg, la Thuringe, là on l'a vu donc en Mecklembourg-Poméranie occidentale, tout petit land, hein, c'est 2%
c'est
de la population.
De
c'est symbolique. Comment vous l'expliquez cette victoire ?
Alors d'abord, je pense qu'il faut appeler un chat un chat. Alternative für Deutschland, l'AFD, c'est l'équivalent allemand du Front National.
D'accord.
C'est un parti d'extrême droite. Avec dans les spécificités allemandes, mais chaque pays a ses propres spécificités, mais c'est un parti d'extrême droite. Et comme l'a fait justement remarquer Jean-Luc, c'est la première fois dans l'histoire de la République fédérale, donc depuis 1949, qu'un parti nationaliste, un parti d'extrême droite, devance le grand parti de droite, conservateur, démocrate chrétien. Voilà. Donc c'est un choc. C'est un choc et la chancelière, effectivement, l'a bien vu. Alors, pourquoi l'extrême droite et l'extrême gauche, d'ailleurs, l'ancien parti communiste, c'est allemand, reste puissant dans l'ancienne République démocratique allemande? C'est étonnant. Ça fait 25 ans. C'est une génération. Et on voit bien que cette société est-allemande est moins ouverte à l'international, est moins ouverte à la modernité que l'est la partie occidentale de l'Allemagne. Et là, il y a quelque chose, au fond, c'est le résultat encore un résultat extrêmement positif du communisme. On voit que, enfin, avec de l'ironie évidemment,
parce on a compris.
On voit, c'est le, comme disait Georges Marchais, c'est le bilan globalement positif. On voit 25 ans plus tard que le bilan globalement positif, il est toujours là, avec une extrême droite et une extrême gauche au fond qui reste extrêmement puissant, puisque ils font. Tout cumulé, ils font 40% des voix, quasiment. Donc, on voit bien qu'il y a une spécificité de la partie orientale de l'Allemagne.
Oui, alors, quand même, je reviens sur ma question. Les migrants, avec l'ouverture faite par Mme Merkel il y a un petit peu plus d'un an maintenant, c'est la raison qui ont fait voter ces Est-Allemands, donc, pour AfD.
Je crois qu'il faut se rappeler que lors de la crise du flux migratoire dans les Balkans et rappelons-nous les images assez étonnantes quand même de la population de Munich en masse venant accueillir les migrants à la gare avec des distributions de boissons, bienvenue, etc. Avec ce fameux surnom donné par les migrants à Angela Merkel de Mutti, qui est diminutif de maman, enfin un diminutif affectueux de maman.
On a l'impression que ça fait un siècle ça. Hein.
C'est vrai qu'entre-temps, il y a eu les incidents du Nouvel An à Cologne, avec les attouchements sexuels et des viols, quand même près d'une centaine de cas. Les deux attentats, sur les trois événements de l'été en Allemagne, deux attentats avaient pour origine des migrants. Mais je dois dire, pour être quand même complet, que c'est vrai qu'il y a un sentiment de très grand malaise, mais que le travail qui est fait par les autorités allemandes d'intégration, d'apprentissage des métiers. Il y a une mobilisation de la société allemande pour intégrer ces populations qui sont quand même des populations essentiellement d'origine afghane et syrienne, des gens qui quittent la guerre. Hein. Et ça, vraiment, je dois dire que c'est quelque chose d'extrêmement formidable.
En tout cas, Angela Merkel, suite justement à cette déconvenue, elle assume sa politique. Voilà ce qu'elle disait en tout début de semaine.
Ce résultat a bien sûr quelque chose à voir avec la politique de l'immigration. Je suis le chef du parti, je suis la chancelière et c'est indissociable pour les électeurs. Donc bien sûr, je suis aussi responsable. Cependant, je crois que les décisions qui ont été prises sont bonnes et maintenant nous devons continuer à travailler.
Voilà, Angela Merkel. Jean-Dominique Merchet, Angela Merkel, est-ce qu'elle va corriger le tir en prévision de 2017? Parce que l'Allemagne aussi, on votera en 2017, élection générale en septembre. Ses chances pour 2017, est-ce qu'elle pourrait ne pas se représenter?
Non, ça je ne crois pas. D'abord parce que elle a un peu fait le ménage. Il y a pas d'autres candidats. Pour l'instant, il y a aucun candidat capable de la concurrencer dans son propre camp.
Y compris la ministre de la Défense, Madame von der Leyen.
Oui, non, honnêtement, je pense qu'elle conserve une solidité politique que beaucoup de dirigeants en Europe, y compris François Hollande, lui envient. Son parti qui s'est affaibli dans les sondages, reste quand même entre 30 et 35% des intentions de vote. Et le parti qui arrive derrière, c'est-à-dire le SPD, les sociodémocrates avec lesquels elle est en coalition, lui est scotché autour de 20-25. Donc on voit quand même qu'on a quand même des... Mais il y a une fragilisation, incontestablement. En même temps, la décision qu'elle a prise l'année dernière d'accueillir les migrants, c'est vraiment une décision de conviction. C'est de se dire, quelle image l'Allemagne, pays qui, à l'époque, souvenez-vous, était accusé d'égoïsme avec la crise grecque, et puis son histoire politique que tout le monde a en tête, quelle image l'Allemagne va donner au monde? L'image d'un pays ouvert, accueillant, tolérant, libéral, capable d'intégrer des étrangers, ou au contraire, l'image d'un pays qui se ferme derrière des barbelés et qui rejette l'étranger. Elle a fait un choix, un vrai choix politique. D'aucuns ont dit qu'elle avait sauvé l'honneur de l'Europe. Personnellement, je ne suis pas loin de le penser.
Voilà ce que nous dit Jean-Dominique Merchet. Jean-Luc Sauron.
Il y a deux inconscients dans cette crise. Il y a aussi l'inconscient de toutes les populations allemandes qui ont été rejetées, excusez-moi, mais brutalement évincées après 45, sont arrivés en masse.
Dans les
RDA, puisqu'ils venaient là, et certains sont allés jusqu'à l'Europe de l'Ouest. Donc il y a aussi un imaginaire d'internes, de migratoires, de choses extrêmes. Et puis il y a le problème démographique. C'est la première fois que l'Allemagne a un solde démographique positif cette année, bien évidemment du fait des migrants.
France, voilà, exactement.
Hein, c'est un problème qui concerne tout le monde en Europe. Il y a une campagne en Italie, assez maladroite d'ailleurs, sur la fertilité féminine. Et c'est aussi un élément. Enfin, je veux dire, c'est aussi un pays qui vieillit, qui manque de bras. Alors, bien sûr, la connotation morale, conviction est réelle. Il y a aussi derrière un projet économique.
Ce vote en faveur de l'AFD, donc, qui est arrivé deuxième, hein, en Mecklembourg-Poméranie occidentale, puis on verra ce qui va se passer évidemment dans le Bundestag. Ça sera probablement la prochaine étape pour ce parti. C'est pas forcément une surprise à l'échelle de l'Europe qui vote de plus en plus pour les populistes, les nationalistes, l'extrême droite, enfin peu importe. Oui, l'Europe justement. C'est Angela Merkel qui dirigeait, entre guillemets, l'Europe justement. Qu'est-ce que ça va changer, Jean-Luc Sauron, le fait qu'elle soit allée un poil affaiblie, hein? Là, on parle au niveau des dirigeants européens.
Alors, au niveau des dirigeants européens, je crois que c'est une vraie problématique. C'est-à-dire que la locomotive européenne, soit le matériel est allemand et le conducteur est français, soit la locomotive est française et le conducteur est allemand. Mais aujourd'hui, c'est deux pièces maîtresses de l'Union européenne, dans un contexte de Brexit qui est quand même assez catastrophique, de monter des groupes. Ce samedi, il y a une réunion. Ce vendredi, il y a une réunion des pays européens du Sud à Athènes avec Tsipras. Il y a le groupe de Visegrad, Pologne, Hongrie, Tchèque.
Ils sont hostiles aux migrants
et qui
veulent fermer leurs frontières.
Et c'est vrai que il n'y a plus de conducteur ou un peu de chef d'équipe, de leader.
Et on a une Europe
la France
plus,
est affaiblie.
Une Europe de plus en plus divisée. Vous avez cité le groupe de Visegrad, vous avez cité donc Tsipras qui veut prendre quelque part le leadership avec les pays d'Europe du Sud, justement, il le disait dans Le Monde, hein. Il veut un nouvel allègement de la dette. L'Europe est menacée de décomposition, dit-il.
Oui, ce qui est quand même, enfin, sans être méchant avec Tsipras, c'est un peu quand même d'un goût douteux, compte tenu qu'il a quand même, l'économie grecque a largement participé à la décomposition actuelle. Mais il y a une difficulté, je crois qu'en effet, il n'y a personne pour taper le poing sur la table. Et vous parlez de Visegrad, c'est vrai que il y avait une volonté d'Angela Merkel qui a rencontré tout le monde, qui a vu le groupe de Visegrad, qui a un certain nombre de chefs, qui a rencontré Juncker, etc. Et visiblement, je dirais, l'impulsion, son autorité faiblit un peu. Il y a un vrai, vrai problème. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, la France, c'est mai. L'Allemagne, c'est l'automne. On a quasiment une année, pas blanche, mais une année où il y a une très forte incertitude sur la négociation, ce qui pose problème à nos partenaires. Mm-hmm. États-Unis, Japon, parce qu'avec qui, alors, la vieille question de Henry Kissinger, l'Europe qui est le téléphone, aujourd'hui, se pose avec encore plus d'acuité.
Juste encore une question, Jean-Dominique Merchet, de l'opinion. Les migrants montraient du doigt, alors probablement au cœur du scrutin de Mecklembourg-Poméranie occidentale. Les travailleurs de l'Est aussi, au Royaume-Uni, depuis le début de l'été, c'est-à-dire depuis le vote du Brexit, on voit des Polonais qui sont agressés. Il y en a 800 000 hein, qui vivent sur place. Il y a même eu un Polonais qui a été tué. Le Brexit, franchement, a accentué ces violences?
Oui, manifestement, il y a eu des faits divers assez désagréables, enfin des faits divers, des agressions contre des immigrés polonais qui sont catholiques, blancs. C'est pas l'invasion de l'islam hein, dont on parle
ils sont membres de l'Union européenne.
Au Royaume-Uni, ils sont blonds, blancs et la plupart du temps catholiques. Donc, mais effectivement, il y a Theresa May, la première ministre britannique, dit le vote sur le Brexit, le référendum sur le Brexit, c'est un référendum sur l'immigration, c'est un référendum contre l'immigration. Et on voit bien ce phénomène,
spécialement l'immigration
inter-européenne, c'est-à-dire C'est-à-dire, c'est pas. Et là, en même temps, on voit le décalage profond qu'il peut y avoir entre les différents pays d'Europe. Nous, nous sommes absolument focalisés sur cette question islamique avec le Burkini, toutes ces histoires, alors que les Britanniques, eux, se sont contre les Polonais, les Lettons et les Estoniens qu'ils en ont. Donc, on voit bien ces décalages en Europe où l'espace politique européen n'existe encore pas complètement.
Jean-Luc, le problème, c'est en effet que l'enjeu majeur de ceux qui ont voté pour le Brexit, c'était le contrôle des frontières face à l'immigration européenne. L'autre immigration, c'est l'immigration du Commonwealth, ils sont extrêmement habitués. Bon, je vais pas m'allonger. Que les Polonais soient catholiques, c'est une partie du problème. Hein. Le catholicisme en Grande-Bretagne n'est pas quand même une... Voilà, il y a un vieux fond.
Oui,
rappelons-nous les polémiques qu'il y a eu lors de la conversion supposée au réel, on ne sait pas, de Tony Blair au catholicisme, avec sa femme. Il y avait quand même un vrai débat là-dessus, qui est un peu inconscient, mais qui est réel. Non, je crois que ça va rendre extraordinairement compliqué la négociation sur le Brexit entre un monde des affaires et l'entreprise qui veut maintenir un accès au marché unique avec ses libertés, dont les libertés de circulation, et la population qui effectivement massivement qui a un refus mais extrêmement profond de l'immigration interne, donc européenne, qu'elle soit blonde, blanche, rousse ou brune.
Oui, le Brexit aussi, Jean-Dominique Merchet, vous qui êtes spécialiste des questions de défense à l'opinion, avec ce bloc Secret Défense, cette conséquence, quel impact sur la défense européenne, avec, dans la mesure où le Royaume-Uni, l'autre grande puissance militaire avec la France, justement, eh bien, ne serait plus dans l'Union européenne. Est-ce que cette défense européenne, elle est affaiblie, ou est-ce que c'est le moment peut-être d'imaginer autre chose, de reconstruire, dans ce contexte évidemment aussi de lutte contre le terrorisme?
Je crois que la défense européenne est une illusion. Elle n'existe pas. On en avait quelques traces, et je ne la vois pas émerger dans les années qui viennent. Les affaires de défense en Europe, la défense de l'Europe, elle repose sur une intégration, elle repose sur une coopération internationale, et ça porte un nom, ça s'appelle l'OTAN. Et ça marche relativement bien. Et par ailleurs, ça repose, et la Grande-Bretagne, qui peut quitter l'Union européenne, restera quand même un pays européen. La Manche ne va pas s'élargir de quelques milliers de kilomètres. Donc elle sera toujours là, toujours impliquée dans les affaires de défense, que ce soit au sein de l'Alliance Atlantique ou dans les relations de coopération bilatérale avec la France, qui sont extrêmement fortes. Donc, honnêtement, je pense que oui, c'est un mauvais signe de plus, ouais, sur l'intégration européenne. Ouais. Mais comme de toute façon, la défense européenne, plus personne n'y croit. Alors, on fait semblant qu'à Bratislava, on va relancer tout ça. Tout ça, c'est du vent. Tout ça, c'est du vent qui ne durera que le temps que les journaux soient lus, vendus et voilà. Et
notamment le vôtre, l'opinion. L'Allemagne peut prendre une place plus importante désormais dans le dispositif militaire européen? Non.
Non, l'Allemagne, en matière de défense, non. Pour une raison simple, c'est que les fondamentaux sont... La question fondamentale, c'est que la population allemande ne le veut pas. Et donc, vous pouvez avoir des dirigeants politiques qui le souhaitent. Les dirigeants politiques allemands sont bien conscients de ça, de droite comme de gauche, qu'il faudrait que l'Allemagne joue un rôle plus important, y compris d'un point de vue militaire sur la scène internationale. Massivement, la population allemande le refuse. Et vous pouvez faire ce que vous voulez. Quand vous avez une telle donnée, oui, on pourra évoluer un petit peu, mais de là, imaginer que l'Allemagne devienne une puissance militaire comme la France, capable d'envoyer ses troupes, d'avoir une dissu... Non.
Jean-Luc Seron.
Mais sur le même problème, je partage l'analyse de Jean-Dominique, mais je dirais que il y a en effet le verrou population, il y a le verrou constitutionnel. Oui. C'est une armée sous le contrôle du Parlement. Et c'est souvent, les Allemands aiment définir la Bundeswehr comme une armée parlementaire. C'est quand même particulier. Mais je crois aussi qu'il y a un tel retard de l'armée allemande. Il y a un problème de course, mais la course, elle est déjà biaisée, parce que la crise internationale, elle est là, est à nos portes. Elle nous est quasiment contemporaine. Et le temps pour les Allemands, je dirais, de monter en puissance, si tant est qu'en effet, ils arrivent à le faire adopter par leur population, on sera totalement décalé. Et là, il y a un vrai problème, qui n'est pas européen, mais qui est international, qui est notre délicieux monsieur Trump, hein, qui a quand même expliqué, en citant les pays baltes, qu'il voit pas pourquoi il ferait jouer la garantie de défense de l'OTAN pour des pays qui ne participent pas au financement des dépenses de la dite OTAN. Il a cité carrément les pays baltes. Du moins, si les pays baltes sont attaqués, c'est pas par qui.
Non.
C'est une petite idée. Voilà. Je vois pas pourquoi on irait les défendre puisqu'ils ne participent pas aux dépenses.
Enfin, c'est faux d'ailleurs.
Non, mais c'est faux. C'est faux parce qu'enfin ils participent même. D'ailleurs, les Lettons envoient de l'armement à l'Ukraine. Enfin, il y a une vraie. Non, oui, mais je veux dire l'image.
Oui, c'est totalement irresponsable.
L'élection de Trump, c'est aussi une élection sur l'isolationnisme. Et ça pourrait peut-être, mais c'est pas à souhaiter, provoquer un peu de dynamisme européen sur la défense, que sans les Américains, il faudrait bien trouver quelque part.
Oui, encore une question aussi dans ce contexte de menace islamiste qui grandit, on voit tout ce qui s'est passé encore cette semaine en France. C'est à l'échelle européenne que les efforts doivent être concentrés ou pas, Jean-Dominique Mercher ?
Non, pas vraiment. Et il faut qu'il y ait une coopération internationale. Mais la coopération internationale, elle ne peut pas se limiter à l'Union européenne. Il faut coopérer. On coopère énormément avec les Américains. On coopère énormément avec beaucoup de pays arabes, avec la Turquie, avec la Russie, avec les Israéliens, avec plein de gens. Évidemment, on ne va pas lutter contre le terrorisme tout seul dans notre petit coin. Il faut coopérer avec tout le monde. Évidemment, avec les Européens. Mais ça ne suffit pas, et c'est certainement pas le cadre prioritaire. Ce qu'il faut, c'est parler à tout le monde et être efficace sur son propre territoire.
Jean-Luc, sur une question à poser à Jean-Dominique, l'autre jour, un ancien dirigeant de la DGSI a fait, dans le cadre d'une ancienne grande école, une conférence de presse ou une discussion, où il a lâché comme information qu'il y avait un projet de, non pas d'unification, mais de coopération extrêmement renforcée entre les deux agences françaises et allemandes de DGSI française et la structure allemande.
C'est la DGSE. C'est DGSE. L'ancien de Bernard Barbier, l'ancien directeur technique, c'est-à-dire de l'espionnage technique de la NSA française qui racontait ça.
Les grandes oreilles.
Là, on est en plein fantasme, je pense, y compris de lui-même, sur l'idée de fusionner la DGSE et les services secrets allemands. Comme si un pays comme la France, allait se priver de son instrument pour le remettre entre les mains du Bundestag. Tout ça n'a aucun sens.
Ouais. Je voulais dire ça parce que c'est quand même la clé de notre faiblesse. C'est en effet cette incapacité on n'a pas le temps de créer un service unifié et on n'a pas la capacité de faire les liaisons.
La coopération entre services de renseignement au niveau européen, entre les grands services, est bonne. Elle est quotidienne et elle est bonne. Alors il y a des choses qui sont insatisfaisantes, mais comme il y a aussi des problèmes entre services français. Vous voyez, il n'est pas toujours facile de faire travailler les services de la préfecture de police et les services de la police nationale.
Et on l'a vu lors des attentats de 2015,
donc,
bien sûr.
Travailler parfois les Allemands et les Français, c'est compliqué. Mais voilà, il faut certainement pas imaginer
l'inimaginable. Voilà, 7 jours dans le monde. On revient vite, évidemment, sur BFM Business. À suivre, la Syrie, en attendant un hypothétique cessez-le-feu. Et puis la guerre entre l'Iran, l'Arabie Saoudite. Gardez mot pour l'instant. À tout de suite.
BFM Business, l'info internationale à la une. 7 jours dans le monde, présenté par Fabrice Lundy.
7 jours dans le monde, à la radio, à la télé. Vous savez, c'est un peu l'ancien Good Morning Weekend. Hein. On est toujours avec Jean-Dominique Merchet qui anime son blog Secret Défense et qui est journaliste dans le quotidien à l'Opinion. Jean-Luc Sauron, professeur de droit européen à Paris-Dauphine. Alors au cœur de 7 jours dans le monde, à présent encore et toujours le Moyen-Orient, et spécialement donc la guerre en Syrie. Depuis dimanche, la frontière turco-syrienne est totalement sécurisée. Déclaration du gouvernement à Ankara, 2 semaines après le déclenchement de l'opération bouclier de l'Euphrate visant Daesh, mais aussi, vous le savez, les Kurdes. Jean-Dominique Merchet, c'est un nouveau signe d'affaiblissement de l'État islamique. Qu'est-ce que ça va permettre ?
Oui, l'État islamique, Daesh, prend des coups, beaucoup, sur le territoire qu'il contrôle, et en Syrie et en Irak. Donc on est dans un moment d'affaiblissement. En même temps, il faut voir qu'on n'est pas au bout de l'histoire. C'est-à-dire que il y a deux choses qui sont très symboliques, deux endroits qui sont très symboliques. Il y a Raqqa, c'est un capital entre guillemets en Syrie, et surtout il y a la grande ville de Mossoul dans le nord de l'Irak. pour l'instant, ils y sont toujours. On parle d'une reconquête dans les mois qui viennent. Bon, ça fait 3 ans qu'on entend dire qu'on va reconquérir Mossoul.
Le donc, président du Kurdistan irakien, Monsieur Barzani, est reçu par François Hollande.
Absolument.
Cette semaine.
Alors, on en a
la
jamais.
France qui aide les Peshmerga.
On a sans doute jamais été plus près, plus proche d'une reconquête de ces hommes. Mais en tout cas, on n'y est pas. Donc, ouais, ouais. Et par ailleurs, ça ne veut, c'est pas parce que le califat sera déraciné, déterritorialisé, que le terrorisme sera vaincu. Il va une nouvelle fois muter. Le Daesh n'est qu'une mutation d'Al-Qaïda, et on verra quelle sera la, ce que sera la mutation génétique qui suivra après Daesh. Donc effectivement, on est dans une affaire de longue durée. Mais oui, sur le terrain, et l'arrivée des Turcs dans le nord de la Syrie contribue effectivement à affaiblir Daesh.
Et on voit parallèlement donc les forces du régime syrien qui marquent des points justement à Alep face aux rebelles.
Les Russes l'année dernière ont joué un rôle essentiel, voilà. Et cette année l'arrivée des Turcs, même s'ils vont pas changer complètement la donne, effectivement ça marque. Hein.
Alors les Russes en effet qui ont aidé à nouveau les forces du régime cette semaine donc à Alep, grâce aussi peut-être aussi à des barils de chlore largués par les hélicoptères de l'armée régulière. On le sait, c'est confirmé, ils utilisent des armes chimiques, ça continue donc de la
part
de Damas.
Oui, ça semble très 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 probable, en tout cas, oui, vraisemblablement, ils ont utilisé quelques barils de chlore dans leur bombardement. C'est pas légal, mais de toute façon, on est en ce moment dans une discussion entre les Américains et les Russes
pour essayer de trouver
une solution politique. Personne n'a envie, enfin en tout cas à part peut-être la France, mais la France qui essaie d'exister dans, sur un dossier dont elle a été sortie. Personne n'a envie de trop se focaliser sur cette histoire des armes chimiques parce que on essaie de trouver une solution globale. C'est pas sûr qu'on l'ait.
Solution politique notamment. Voilà. Oui, Jean-Luc Sauron. Avec
bonne nouvelle là-bas, mauvaise nouvelle chez nous, parce que la disparition de Daesh. Il faut que Daesh disparaisse de Syrie et l'Irak. C'est aussi le retour de tous les volontaires européens, qui sont quand même plusieurs milliers, et qu'il va falloir, dont il va falloir gérer, entre guillemets, le flux, et surtout, se poser la question et la résoudre de qu'est-ce qu'on va en faire, qu'est-ce qu'on va faire de ces personnes qui ont reçu un entraînement militaire, une capacité à auto-fabriquer des bombes, qui sont vraiment quelque chose de dramatique.
Les Turcs en ont déjà renvoyé 147.
Ouais.
C'est-à-dire que les Turcs, maintenant, font vraiment le boulot, c'est-à-dire qu'ils arrêtent les gars, de Français, ils en ont renvoyé 147. Alors, c'est vrai qu'on les bat en prison, mais on voit qu'une fois qu'ils sont en prison, ils ne cessent pas pour autant d'être des djihadistes, comme on l'a vu
à Oni, notamment, à Oni, ou à Villeneuve-les-Maguelones.
Donc, effectivement, on est face à un vrai problème, et là, pour l'instant, on n'a pas de solution miracle.
Ça vous rappelle, c'est intéressant ce que disait Jean-Luc Sauron, justement, Jean-Dominique Merchet. Est-ce qu'on peut faire le parallèle avec ce qui s'était passé en Algérie dans les années 90, avec le retour des combattants d'Afghanistan, donc, qui combattaient à l'époque, donc, dans les années 80, l'armée rouge, hein, qui était revenue, et qui avait, évidemment, qui s'était livré à toutes sortes de massacres, d'assassinats dans des villages, dans les grandes villes, etc. Est-ce qu'on peut faire le parallèle entre les deux ?
Je ne ferai pas ce parallèle, parce que ce qui a causé la guerre civile en Algérie, c'est l'interruption d'un processus démocratique.
En 80.
Les islamistes avaient gagné les élections, ils avaient parmi eux des gars extrêmement radicalisés, mais qui étaient des héros, qui étaient, ne l'oublions pas, nos alliés, nos amis. C'est les gens qui avaient participé... On appelait ça les combattants de la liberté. Les moudjahidines, c'était des gens... ils combattaient l'ennemi soviétique. Donc ils sont revenus. Et c'était des héros. Non, ce qui a provoqué la guerre civile en Algérie, c'est l'interruption d'un processus démocratique par l'armée. Les islamistes avaient gagné les élections. On leur a contesté ça. Il y a eu 10 ans de guerre civile. Donc, je pense que c'est une situation. Mais en même temps, le retour.
Mais c'était des gens quand même méga entraînés. Ceux qui avaient combattu en Afghanistan, on les retrouvait là.
Oui,
comme ceux qui reviennent de Syrie, on va les retrouver chez nous.
Méga entraînés. Regardez ce qui s'est passé à Nice cet été.
Oui, vous avez raison.
Il suffit d'avoir son permis poids lourd. Mais on a un problème avec le retour des gens, mais on a un problème qui est beaucoup plus vaste que ça. À un permis poids lourd aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est capable de tuer des dizaines de personnes.
Un couteau, comme c'est à
Manon. Non, mais je veux dire, je n'ai pas une analyse sur l'Algérie des années 80, parce qu'en effet, les incidents ont commencé avant le retournement. Et c'est parce que les incidents commençaient qu'il y a eu un blocage. C'est aussi une des causes du blocage. Non, ce qui est à craindre, moi, je pense véritablement, ce que renvoient les Turcs, c'est les gens qui n'ont pas eu cet entraînement, ce super entraînement. Là, on va avoir des bombes vivantes au sens propre comme au sens figuré du terme. Et on a, pour venir à l'Algérie, on a, toute la presse en parle, une montée de l'islamisme en Algérie, dans les milieux scolaires, dans le milieu du travail, des incidents croissants. Il y a la succession difficile du président Bouteflika. Car franchement, ce problème de la gestion de l'après-Daesh, c'est quelque chose qui va nous occuper. Et tout le débat qu'il y a actuellement en France, mais également en Europe, sur état de, en France, état d'urgence, état de droit, c'est vraiment quelque chose qui va... c'est pas une thématique qui va s'arrêter comme un beau matin en mai 2017. Hein.
Les Russes, les Américains qui discutent actuellement, en effet, pour tenter de trouver une solution politique en Syrie, Jean-Dominique Merchet, sur quelle base ? Américains et Russes ont retrouvé la facilité de se parler, parce que quand même, ils soutiennent des groupes différents là-bas sur place.
Non, pour l'instant, il n'y a pas d'accord. Ils se revoient ce week-end, durant le week-end là, et peut-être qu'il y aura un accord. Et en même temps, on est sorti d'un monde où d'un monde bipolaire où le simple accord de Washington et de Moscou permettait de régler les problèmes. Les acteurs régionaux, que ce soit les grands pays comme l'Arabie Saoudite, la Turquie, l'Iran, Israël, ou les acteurs locaux sur le terrain, les groupes, ont une autonomie stratégique. C'est-à-dire qu'ils font ce qu'ils veulent et ils n'obéissent pas forcément aux décisions du niveau global, qui est le niveau des grandes puissances et de l'ONU. Donc effectivement, le jeu est extrêmement compliqué. Imaginez que Moscou soit capable d'imposer ses desiderata à l'Iran et à Bachar el-Assad, c'est une vision extrêmement datée de l'histoire. C'est plus comme ça que ça se passe. Bachar a son autonomie, les Iraniens ont une autonomie. Alors, voir les deux grandes puissances se mettre d'accord, c'est sûr qu'il vaut mieux qu'elles soient d'accord qu'opposées. Ça facilite le processus. Mais en même temps, ça ne suffit pas. Et donc, on n'est pas au terme de cette affaire.
Ça devient un bourbier pour les Russes ou pas là-bas en Syrie, Jean-Dominique Mercher?
Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Ils ont très peu de pertes. Ils ont au contraire... leur investissement est très rentable. Ça leur coûte pas si cher que ça. Et ils se sont réimposés comme un acteur majeur dans la région, y compris en se réconciliant avec la Turquie, y compris en étant aujourd'hui... Ils sont, au fond, aujourd'hui, les Russes sont les amis de quasiment tout le monde au Moyen-Orient. Ils sont les amis des... Ils se sont réconciliés avec les Iraniens, les Turcs, les Israéliens, il n'y a plus qu'avec les Saoudiens qu'il faut qu'ils trouvent un accord, mais ils pourraient le faire, notamment autour du pétrole.
Alors un peu de désaccord pour mettre un peu d'ambiance. Bachar el-Assad sont les Russes. Je pense qu'aujourd'hui, ils seraient éventuellement sur un petit navire ou ailleurs. C'est quand même eux qui ont arrêté quand même la catastrophe pour Bachar el-Assad. Je n'ai pas dit que c'était une catastrophe. L'Arabie Saoudite au Yémen, il n'y aurait pas les bombardements américains. Ils arriveraient même pas à rentrer dedans. Donc ils sont quand même les maîtres du jeu. Non, le vrai drame, moi je sens, c'est que, évidemment c'est à juste titre, que la France a du mal à faire entendre sa voix, que les Britanniques ont été à un moment un acteur important, eux ils ont d'autres soucis aujourd'hui avec le Brexit, et que les Américains, du jour de l'élection en novembre à janvier, il va y avoir une perte de puissance.
Et ça vous a pas sauté aux yeux, justement, au G20 en Chine, le week-end dernier, avec des leaders quand même assez forts, les nationalistes turcs, Erdogan, Poutine pour la Russie, le président chinois face peut-être à des Occidentaux, elle est beaucoup plus fragilisée.
Ah ben, c'est le charme de la démocratie, hein. C'est-à-dire que les trois pays forts du G20, c'était la Chine, la Turquie et la Russie, qui ne sont pas quand même des archétypes de démocratie à l'occidentale, mais qui ne sont pas non plus dans des situations économiques majeures. S'ils arrivent à montrer les muscles, c'est qu'ils n'ont pas d'opinion publique pour contester aussi la pratique des gouvernements.
Alors, on les a cités, les grandes puissances régionales, notamment l'Iran et l'Arabie Saoudite, les deux rivaux, les deux ennemis, entre guillemets, chiites et sunnites, alors que le Hajj, le pèlerinage de la Mecque, débute ce week-end. Et souvenez-vous ce qui s'était passé l'an dernier, il y avait donc une bousculade qui avait fait 2300 morts à Riyad. Eh bien, Téhéran et Riyad, tout au long de la semaine, s'accusent mutuellement. Tiens, le président Rouhani, justement.
Le gouvernement saoudien doit être tenu responsable de cet incident. Malheureusement, le gouvernement ne s'est même pas excusé verbalement auprès des musulmans et des pays musulmans.
Voilà le président iranien qui expliquait même la famille royale maudite saoudienne ne mérite pas de gérer les lieux saints. Le grand moufti saoudien, lui, répond, déclare que les Iraniens ne sont pas des musulmans. C'est l'autre terrain d'affrontement entre Saoudiens et Iraniens, le pèlerinage de la Mecque, Jean-Dominique Merchet.
Oui, il y a une vraie guerre froide entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, qui date de 1979, de la création, enfin de la révolution islamique en Iran. Il y a eu des hauts et des bas. Là, on est dans un moment plutôt de bas. Effectivement, c'est la situation n'est pas très bonne. Ce que les Saoudiens ne supportent pas, c'est de voir les Iraniens revenir dans la communauté internationale depuis qu'ils ont signé le 14 juillet 2015 un accord sur le nucléaire avec les Américains. Donc là, il y a une tension très très forte. Bon, là, effectivement, elle se cristallise autour du pèlerinage. C'est vrai que il y a eu aussi l'exécution d'un leader chiite cet hiver, un leader chiite saoudien.
En Arabie Saoudite, bien sûr.
Et puis, ensuite, l'ambassade d'Arabie Saoudite a été envahie à Téhéran. Bref, on est dans un climat très mauvais.
Avec un nouveau visage ou pas pour l'Arabie Saoudite? Je pense à MBS, oui. Mohamed bin Salman, le vice-prince héritier, essaie de moderniser, qui essaye un petit peu de se désintoxiquer du pétrole, de la rente pétrolière.
Ils essaient de faire ça, comme je raconte dans mon journal, ils se heurtent à un vrai problème. Il est bien conscient, il a 31 ans, c'est sans doute le dirigeant le plus jeune au monde, avec le plus jeune et le plus puissant au monde. Il se heurte à un vrai problème. Il sait très bien que ça ne peut pas continuer comme ça, cet état-providence où les gens ne paient rien et sont payés à ne rien faire. En gros,
c'est
comme ça que ça se passe. Et il faut mettre les gens au travail, il faut mettre les Saoudiens au travail. Et comme le dit un observateur de l'Arabie Saoudite, qui connaît bien, qui vit depuis des années, il dit les Saoudiens réclament des emplois, mais ils ne veulent quand même pas que ces emplois dégénèrent en travail. voilà. Donc tout est dit, il n'y a aucune culture du travail dans ce pays. Et donc, quand vous êtes là, et vous savez, au final, les pays qui s'en sortent, c'est les pays qui bossent. Le Vietnam, la Turquie, c'est le pays où les gens bossent. Quand les gens bossent pas, vous pouvez pas vous en sortir.
Bon, allez, on continue dans un instant. 7 jours BFM à suivre. Ces tensions donc en Asie avec la Corée du Nord qui procède à un nouvel essai nucléaire. À tout de suite sur BFM Business.
BFM Business, l'info internationale à la une. 7 jours dans le monde, présenté par Fabrice Lundy.
Oui, 7 jours dans le monde, pour revoir toute l'actu internationale de la semaine. Toujours avec nous Jean-Dominique Merchet et Jean-Luc Sauron. Tiens, pour faire plaisir Jean-Luc, on va redémarrer en Corée du Nord avec votre copine, la présentatrice de la télé nord-coréenne.
우리 핵무기 연구소 과학자 기술자들은 북부 핵시험장에서 새로 연구 제작한 핵탄두의 위력 판정을 위한 핵폭발 시험을
완행하였다. Traditionnelle présentatrice télé Ri Chun-hee, elle a fait ses débuts dans les années 70, Jean-Luc. La télé nord-coréenne qui ce vendredi matin annonçait son cinquième essai nucléaire qui fait suite cette semaine à de nouveaux tirs de missiles. Jean-Dominique Merchet qui anime son blog, Secret Défense. On dit que c'est le plus puissant jamais mené par Pyongyang. C'est Séoul qui le dit. Qu'est-ce qu'on sait exactement, franchement?
Ah, on sait vraiment qu'ils ont réussi un tir nucléaire. Vous savez, il y a un système international avec des capteurs un peu partout dans le monde qui mesure ça. Et en fait, on enregistre un séisme et on mesure. Après, on comprend que si c'est vrai ou si c'est pas vrai, c'est vrai. Ils sont en train ils maîtrisent aujourd'hui clairement l'arme atomique. Ils essaient de la miniaturiser et d'avoir les vecteurs pour c'est-à-dire les fusées pour les missiles pour pouvoir les transporter. Il y a même eu, ils prétendent.
Voilà, c'est la mettre sur une fusée et l'emmener. Voilà.
Ils prétendent être capables d'en tirer depuis des sous-marins en plongée. Ils ont fait une démonstration au début du mois, là. Il faut voir si c'est vrai. Mais de toute façon, ils y mettent énormément de moyens, ils sont pas complètement idiots, les Nord-Coréens, enfin les Coréens, c'est un peuple, voilà, de gens qui travaillent, ils vont y arriver, clairement. S'ils l'ont pas encore totalement aujourd'hui, ils y sont. Donc ils se dotent d'une arme nucléaire opérationnelle.
Et pour en faire quoi ?
Ah ben pour rassurer leur survie. Voilà, pour assurer leur survie, quelqu'un qui a une arme nucléaire est intouchable. Mmh. Si Saddam Hussein avait eu l'arme nucléaire, jamais les Américains ne l'auraient envahi. Si Kadhafi avait eu l'arme nucléaire, jamais la France et l'Angleterre n'auraient fait une opération contre eux. Donc, vous êtes sanctuarisé, comme on dit dans la théorie de la dissuasion. On ne vous touche pas quand vous avez une arme nucléaire. Donc, ils assurent la survie du régime. Point. Et après, ils peuvent négocier des choses, leur survie, des aides internationales, avec la Corée du Sud, avec la Chine, avec tout le monde. Après, ils font ils peuvent raqueter, au fond.
Donc c'est au cœur de leur stratégie. Le nucléaire, c'est l'un des fondements de la Corée du Nord.
Absolument. Et c'est même le cœur du système, aujourd'hui.
Jean-Luc Sauron, qui est professeur à Paris-Dauphine.
Alors, trois choses sur la bombe. C'est pas pour rien, il y a un très beau livre de Bruno Tertrais qui vient de paraître, Le Président et la bombe. L'arme nucléaire, ça définit aussi une particularité du président français parmi ses alter-ego européens. Deux choses. Barack Obama est quelqu'un qui a orienté la politique étrangère américaine vers l'Asie, parce que c'était un homme du Pacifique. Et c'est vrai qu'il a retissé les liens avec l'ensemble des pays de cette zone face à un impérialisme chinois, vous savez, qui en est à fortifier des îles, à créer des îles,
pour faire
des
bases,
enfin c'est une chose importante. Où est l'Europe ? C'est-à-dire que sur une des zones qui politiquement peut être une zone d'avenir, voire même une zone de très forte conflictualité. C'est-à-dire que les think tanks américains travaillent depuis très longtemps sur l'idée d'une guerre sino-américaine. Nous sommes totalement, je dirais, hors zone dans tous les sens du terme. Et si vous regardez les programmes faits par Federica Mogherini, c'est-à-dire la politique étrangère européenne, vous verrez qu'il y a quasiment rien sur cette zone.
Oui, il a raison, Jean-Luc Sauron, parce qu'on reparle du G20 d'un mot avant de reparler de la Corée du Nord. C'est vrai que le G20 qui se tenait donc à Hangzhou, donc c'était une première pour la Chine d'organiser donc une telle réunion internationale. Barack Obama en a profité pour rappeler à Pékin qu'il respecte le droit maritime international, évidemment allusion à toutes les velléités chinoises de planter leur drapeau sur toutes sortes d'îles, d'îlots, etc. Les Senkaku, les Diaou, les Spratly, etc. Bon, très bien. Jean-Dominique Merchet, c'est une fois qu'on sera débarrassé de la guerre en Irak, en Syrie, etc., c'est là où il peut y avoir un méga conflit.
Écoutez, on est clairement dans une réaffirmation impériale de la part de la Chine, qui se moque absolument de nos condamnations. Voilà, ça ne compte pas. Ils le font, ils considèrent qu'ils sont chez eux, et c'est comme ça, c'est pas autrement. Vu la puissance économique et maintenant militaire de la Chine, il est difficile de s'y opposer. L'Europe est absente du dossier et le restera. La France, qui est une sans doute des puissances politiques les plus importantes en Europe, n'a plus aucune influence politique, ce qui ne veut pas dire commerciale, mais politique, dans les dossiers politiques, sur les crises politiques, à l'est de l'Iran. Notre zone d'influence s'arrête à l'est de l'Iran. On avait un peu encore quelque chose en Afghanistan lorsqu'on avait quelques militaires, mais tout ça, c'est fini. Alors, effectivement, on a paraît-il, des accords stratégiques avec tout le monde, mais c'est simplement de la mer commerciale, ça.
Mais quand on voit, par exemple, c'est un rapport du Congrès américain qui le disait à la fin de l'année dernière, la Chine a multiplié sa flotte de sous-marins, de destroyers par 20 depuis 1995. Il peut y avoir une confrontation réelle Chine-États-Unis, par exemple ?
Oui, il y a beaucoup de théories, enfin d'auteurs qui font des romans de politique fiction en imaginant ça. En même temps, on reste dans une logique de dissuasion. Oui. Vous avez deux grands pays qui vont se dissuader. Est-ce que je peux aller trop loin ? Ils ont des intérêts liés quand même. Il y a énormément d'intérêts économiques qui pèsent pour que ça ne dégénère pas. Mais on a connu des situations où clairement personne n'avait intérêt à la guerre de 14 économiquement, et pourtant elle a eu lieu.
Elle a eu lieu à partir d'un incident.
Donc oui, tout
incident,
est
entre guillemets. Oui.
Je vais revenir là-dessus.
Jean-Luc,
le moment de la plus grande interpénétration économique franco-allemande, c'est juillet 14. Mmh. Donc vous savez, les liens économiques comme frein à la guerre, c'est quelque chose sur lequel il ne faut pas. Je voulais simplement dire que je crois que on fête actuellement, et je sais que Fabrice il prend une grande part, le 70e anniversaire de la mort de Mao Tse-tung. Je crois que le dirigeant chinois
40e anniversaire.
40e anniversaire.
1976-2016.
Vous voyez, je savais qu'il connaissait les dates. Je crois que c'est le premier dirigeant actuel qui réunifie comme Mao, sous la même casquette, la direction politique et militaire du pays.
De l'armée.
Il a fait une reprise en main, et c'est là où est le danger, c'est-à-dire qu'il a vraiment chaussé les mallettes.
Juste un mot, puisqu'on va se quitter dans 30 secondes maintenant, le danger nord-coréen, il y a des moyens de faire plier la Corée du Nord ou pas, Jean-Dominique Merchet, parce que depuis vendredi matin, tout le monde s'agite,
non.
La Chine en premier.
Honnêtement, non. Honnêtement, non.
Pas de sanctions qui pèsent, non, comme pour l'Iran, par exemple.
Rien à faire. Ils font leur folie dans leur coin. Tout le monde essaie de contrôler ça, mais il faut pas jeter de l'huile sur le feu. Voilà.
Et Corée du Sud, Japon, États-Unis n'ont pas envie un jour de répondre aussi aux provocations.
Non, parce que la Chine n'a pas envie non plus de ça. Donc, les Nord-Coréens embêtent tout le monde, y compris les Chinois. Mais voilà, ils ont une arme nucléaire et donc ils sont intouchables.
Merci Jean-Dominique Merchet, journaliste spécialiste des questions de défense à l'Opinion, puis allez voir son blog Secret Défense. Je suis content de le voir, de le rencontrer, de le recevoir. Tout comme de revoir également Jean-Luc Sauron, professeur de droit européen à Paris Dauphine. C'est fini pour 7 jours dans le monde sur BFM Business. Très bon week-end.
BFM Business, 7 jours dans le monde.